bonsoir. Les combats se sont poursuivis ce mardi 7 mars au Nord Kivu, alors que c'est ce mardi à 12h que le cessez-le-feu devait entrer en vigueur dans les zones de combat des territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Sur le terrain, des combats étaient encore signalés ce mardi dans certaines localités, notamment sur l'axe Kibirizi dans le territoire de Rutshuru. Au sujet de la cessation des hostilités, dans un communiqué publié ce même mardi, le M23 a déclaré l'effectivité du cessez-le-feu dès ce mardi 7 mars 2023 à 12h heure de Bunagana. Cela en réponse aux engagements conclus devant le président en exercice de la CIRGL à Luanda afin d'ouvrir la voie au dialogue direct avec le gouvernement de Kinshasa, dit le porte-parole. Le communiqué ajoute que les M23 se réservent le droit de se défendre si ces positions sont attaquées. Cela pour protéger les populations civiles et leurs biens, affirme-t-il. Comment analyser cette situation? Nous en parlons ce soir avec Maître Juvenal Mounoubomoubi, le député national élu de Walikale au Nord Kivu. Il est cadre de l'UNC et aussi membre de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Maître Juvenal Mounoubo, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Maître Rigan Miviri, avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Maître Rigan Miviri, bonsoir.
Bonsoir Madame.
Et le professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, il est coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir aux auditeurs de Radio Capi.
À Goma, au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal+, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à Dialogue entre Congolais, laissez un commentaire ou posez une question en écrivant à dec@radiokapi.net. Appelez au 081 890 64 88. Laissez un commentaire sur la page Facebook intitulée Dialogue entre Congolais-Radio Okapi. Et n'oubliez pas de joindre à tous vos messages un numéro de téléphone par lequel nous pourrons vous appeler en cas de besoin.
Au Nord Kivu, la situation sécuritaire reste tendue dans toute la zone des combats opposant les FRDC aux rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru et de Masisi. Et en ce jour où le M23 a annoncé l'effectivité du cessez-le-feu, comment se présente la situation? Nous en parlons avec Bernardin Nyangui.
Bernardin, quelle est la situation dans la zone des combats ce mardi?
Il faut signaler que les affrontements se sont poursuivis ce mardi jusqu'à tard dans la journée, notamment dans le territoire de Masisi autour de la cité de Sake. Cette cité, comme vous le savez, qui est stratégique, a été victime de bombardements des rebelles hier soir et aussi a vécu dans une petite accalmie au moins ce mardi. Toutefois, les rebelles du M23 ont reconquis la localité de Karuba, qui est un autre important centre d'approvisionnement à produits agricoles, à une quinzaine de kilomètres au nord de Sake, sur l'axe Ngungu. Et ces rebelles avanceraient même actuellement vers les collines surplombant Chacha, sur la nationale numéro 2 Goma-Sake-Minova, affirment nos sources à Sake. Et là, malgré tout, ces rebelles font face à une forte résistance de l'armée et des groupes armés locaux dans la zone de Chacha, ajoutent ses sources.
Bernardin, on sait tout de même que la direction du M23 a annoncé le cessez-le-feu au milieu de la journée. Que peut-on dire de cela?
Oui, exactement. Au milieu de la journée, les rebelles ont sorti ce communiqué annonçant l'effectivité du cessez-le-feu de ce mardi 7 mars 2023 à 12h précises, heure de Bunagana selon eux. Cependant, les rebelles préviennent aussi que, dans le même communiqué, qu'ils se réserveraient le droit de se défendre si leurs positions sont attaquées par l'armée congolaise et ses alliés. Et le porte-parole des FARDC, lui, persiste et signe pour le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, il n'y a pas de cessez-le-feu du fait que les affrontements se poursuivent et même il a sorti un communiqué à ce sujet ce soir.
Quelle est la situation dans d'autres zones de combat?
Pour d'autres zones de combat, sur l'axe Rutshuru par exemple, une accalmie s'est observée sur l'axe du groupement Mutanda Rwindi, où le M23 a conquis, comme vous le savez, hier, le village Kibirizi et Kirima. Le camp de la Rwindi est aussi presque dégarnie actuellement de toute présence militaire et la tension y est vraiment vive. Et sur l'axe Kichanga-Mwesopinga, la situation reste aussi tendue, ce après l'occupation hier lundi de nouvelles agglomérations par les rebelles du M23. C'est notamment Mpati, Kirumbu et Kashuga. De nouveaux mouvements intenses de population ont aussi été observés dans ces autres cités.
Merci beaucoup Bernardin Nyangui.
Merci à vous Martin.
Merci Martin, c'est vous Jangwe, Bernardin Nyangui. Maître Juvenal Mounoubomoubi, avec moi dans ce studio, vous êtes député national élu de Walikale au Nord Kivu, vous êtes cadre de l'UNC, vous êtes aussi membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Malgré l'annonce le 3 mars à Luanda d'un nouveau cessez-le-feu accepté par le M23 et censé entrer en vigueur ce mardi 7 mars, les combats se sont poursuivis entre l'armée et les rebelles dans l'est de la RDC, sur le front nord et sud, autour des zones contrôlées par la rébellion. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Alors comment vous analysez cette situation? Est-ce qu'il fallait s'attendre à cette violation au non-respect de ces cessez-le-feu par le M23?
Merci madame. Au fait, il n'y a rien de surprenant connaissant les modus operandi du M23 qui bénéficient visiblement du soutien du Rwanda. Il s'agit là d'une diversion. Une diversion, une façon de distraire l'État congolais, de distraire le gouvernement, une façon de vouloir gagner le temps, parce qu'il s'agit là d'un véritable double langage. Un millier de journées, vous avez dit, votre confrère l'a dit, il y a eu ces communiqués-là qui laissaient peut-être faire passer un peu d'espoir. Mais on voit bien que la M23 veut asphyxier totalement Goma, parce que l'idée, quand ils cherchent par exemple à atteindre Chacha, ça veut dire ils veulent couper la route Goma-Bukavu, qui passe par Minova, par Nyabibwe et tout ça. Et dans le nord, ils ont occupé hier Kibirizi. Vous voyez, Kibirizi, c'est tout près de la mine de Somikivu. Il y a les minéraux de wolframite à ce niveau-là. Et donc, c'est une guerre d'agression, c'est une guerre d'occupation, parce qu'il y a des informations qui disent qu'il y a des populations, il y aurait des populations non connues par les chefs coutumiers et tout, qui seraient en train d'occuper de maisons venues d'on ne sait où exactement. Et donc il faut faire attention. Il s'agit d'une guerre d'occupation, peut-être de vouloir peupler une certaine population étrangère. C'est une guerre pour les ressources naturelles. Quel intérêt des groupes armés, il y en a beaucoup, mais s'attaquer à Rubaya, on sait que c'est une mine de cassiterite, de coltan, et s'attaquer à une mine de wolframite. Vous voyez, donc ils ont des objectifs bien clairs, avoir accès aux ressources naturelles, avoir des sources de financement, c'est-à-dire les postes frontaliers, c'était Bunagana qu'ils ont occupé, et puis ils ont occupé un autre poste, en tout cas ils menaçaient sérieusement de prendre Ishasha. Eh bien, ils ne lâchent pas prise, ils sont en train de vouloir faire de la diversion à travers leurs communiqués ou leurs porte-parole. Ils veulent asphyxier Goma, ils veulent gagner le temps. Et en tout cas jusque-là, ils sont rassurés du soutien du Rwanda. Le Rwanda qui engage un véritable bras de fer avec Kinshasa. Kinshasa qui ne veut pas se laisser taper dessus. Vous avez vu le président Tshisekedi était très clair même en direction.
Kinshasa ne veut pas dialoguer.
Il ne veut pas dialoguer pour l'instant, parce que dialoguer, comme nous l'avions dit d'ailleurs, on était avec Prof Bob Kabamba la dernière fois dans une émission dialogue, ça serait l'humiliation. Dialogue aujourd'hui avec l'M23, ça voudrait dire humiliation de l'État congolais. C'est ce que ça
veut dire. Mais entre-temps, il y a des localités qui continuent à être prises par les M23, des localités continuent à tomber.
Nous sommes dans une situation que Karl von Clausewitz qualifie de guerre défensive. Hein. Donc on vous attaque, vous vous défendez. Évidemment, quand vous vous défendez, ça peut paraître comme si vous étiez dans une position de faiblesse, mais Clausewitz, qui est un stratège de guerre, estime que c'est une position qui... L'avantage, c'est que vous conservez et vous pouvez jouer sur les faiblesses de l'ennemi. Les faiblesses de l'ennemi peuvent ne pas être forcément militaires, quoi. Parce que l'ennemi, c'est qui? C'est le Rwanda. Ces faiblesses, c'est quoi? Parce que de plus en plus, le Congo, et là, il faut quand même apprécier la diplomatie congolaise, le travail du ministre des Affaires étrangères, c'est de montrer, noirs et blancs, la culpabilité du Rwanda. Et donc, ça ne serait pas surprenant dans les moyens long terme, dans les moyens termes, de voir le Rwanda isolé sur le plan diplomatique. Ce n'est pas pour rien.
Vous
quand
y
le
croyez,
pape, j'y crois,
Maître Juvenal.
J'y crois fermement. Quand le pape François à Kinshasa adresse un message clair en disant « Retirez vos mains de la République démocratique du Congo », eh bien, il faut savoir que les efforts diplomatiques du Congo, du président Tshisekedi, de la diplomatie congolaise, ce ne sont pas des efforts vains. Hein, c'est des efforts qui arrivent à mobiliser la communauté internationale, le Saint-Siège, même Macron, on peut tout dire, mais les discours de Macron étaient assez clairs par rapport, il a dit ni balkanisation, ni crime, tout ça, il a insisté sur la souveraineté de la RDC. C'est pas pour rien, Kagame peut donner l'impression d'être assez, encore fort sur le plan militaire, parce que ses supplétifs essaient de gagner le terrain. Mais ne vous en faites pas. En interne, il y a une coalition qui se forme, hein, et il n'y a pas que les FARDC, hein, votre confrère l'a dit. Il y a même des groupes...
Des groupes, vous parlez des groupes armés.
Des groupes armés.
Vous légitimez les groupes armés aujourd'hui pour combattre aux côtés des FARDC.
Non, je ne peux jamais légitimer parce qu'ils sont en dehors des, en marge de la loi. Mais, je ne veux pas vous partager une réflexion juridique. Une réflexion strictement juridique. Avec ça, on ne doit pas légitimer les groupes armés parce que c'est des groupes, hors la loi. Mais d'un point de vue sociologique, politique, la réalité est qu'un pays, le pays est agressé et il se forme comme une sorte d'union sacrée. Vous voyez, c'est pas une union sacrée politique, mais une union sacrée, je dirais, psychologique pour lutter contre l'agresseur, vous voyez. Et l'agresseur, c'est l'M23, l'agresseur, c'est le Rwanda. Il y a la société civile aussi qui apporte son soutien au FARDC. Il y a les populations qui sont prêtes à aller combattre. Vous avez vu, lorsqu'on a lancé ces recrutements, les gens se sont mobilisés, ils sont allés pour se faire recruter. Eh bien, il y a ça. Donc il y a cette résistance interne qui s'est constituée.
Vous êtes contre tout dialogue, excusez-moi de vous avoir interrompu.
Il y a aussi cette convergence sur le plan international, ne vous en faites pas. Et un isolement du Rwanda n'est pas une hypothèse à ne pas mettre sur la table. C'est une hypothèse et ça peut arriver que le Rwanda soit totalement isolé sur le plan international.
Alors vous êtes contre tout dialogue entre le gouvernement de Kinshasa et les M23. C'est quoi l'alternative au refus du dialogue avec le M23?
Alors sur le plan militaire, nous devons nous défendre. Que nous ayons des faiblesses sur le plan interne, nous n'avons pas le choix. Nous sommes en légitime défense. C'est comme quand on vous attaque dans votre propre maison. Eh bien, vous prenez tout ce qu'il faut pour vous défendre. Si c'est une hache, si c'est un marteau qui est à votre portée, en tout cas, vous devez vous défendre votre famille contre l'agression. C'est la situation dans laquelle se trouve le Congo. Vous n'allez pas dire à la personne attaquée dans sa propre maison de négocier avec l'ennemi, de négocier avec ce voleur à main armée. Et alors, le voleur à main armée, c'est qui? C'est le Rwanda, c'est la M23. On est dans une situation de légitime défense. Légitime défense qui est une notion de droit, tant sur le plan interne que sur le plan international. Et donc, la solution qui est tout naturelle et tout légitime, nous défendre, malgré les moyens qu'on puisse avoir, malgré les faiblesses qu'on puisse avoir. Alors, de deux, il faut accentuer la pression internationale pour arriver à isoler un peu plus le Rwanda. Parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, une guerre comme celle-ci, c'est une guerre assez politique, vous voyez, et ça peut prendre fin s'il y a une pression diplomatique assez forte qui est exercée sur le Rwanda, s'il y a des sanctions économiques qui sont prises contre le Rwanda. Kagame ne pourrait pas résister à la colère de la communauté internationale, une communauté internationale qui serait mobilisée par l'État congolais.
Merci, Maître Juvenal. Maître Rigen Miviri, vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo. JEC, en sigle, les combats se sont poursuivis ce mardi 7 mars jusque dans l'après-midi, hein, dans les territoires des massifs du Nord Kivu, cela malgré la déclaration d'une cessation des hostilités émise par les rebelles du M23 depuis la mi-journée. Alors, est-ce qu'il fallait s'attendre un peu à ce non-respect de ces cessez-le-feu?
Oui, si on considère les annonces passées, on pourrait quand même être dubitatif. Cependant, il y a eu quand même des éléments nouveaux, et c'était notamment en fait les engagements qui ont été pris sur le plan diplomatique, notamment avec l'implication de la France. On pensait que peut-être cet élément-là pourrait faire changer la situation sur le terrain et que cette fois-ci, peut-être, l'annonce du cessez-le-feu serait respectée. Mais bon, la journée d'aujourd'hui a montré que ce n'est pas le cas. Mais peut-être qu'il faut regarder jusqu'à demain et voir comment va évoluer la situation sur les différents fronts, notamment le front nord et aussi le front à l'ouest de la ville de Goma. Mais en tout cas, si on considère que les éléments d'aujourd'hui, on peut dire que le cessez-le-feu n'a pas été respecté, et il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être avancés pour cela. Je pense qu'on pourrait aussi regarder la timidité avec laquelle le gouvernement congolais avait reçu ces communiqués, qui en fait, tout en parlant du cessez-le-feu, on ne parle pas suffisamment du retrait. L'M23, par exemple, dans son communiqué, il ne parle pas du retrait, il parle que du cessez-le-feu. Et ça, c'est juste cristalliser une situation que le gouvernement congolais trouve illégitime et injuste. Donc, moi, de ma part, je pense que ça serait très difficile que le gouvernement congolais se satisfasse du retrait, tout simplement. Donc, et je pense que c'est le fait qu'on n'a pas vu dans quelle mesure cela va vraiment résoudre le conflit, et qu'encore il y a dans le communiqué du M23 des obligations de négocier qui sont encore là, alors que le président lui avait déjà dit clairement qu'il n'y a pas de négociation tant que les populations ne sont pas encore retournées. Donc, je pense qu'on est allé trop vite pendant qu'il y avait encore des questions qui étaient sans réponse, qui font que juste imaginer que par une baguette magique, qu'à 12 heures de Bunagana, il y a un cessez-le-feu, c'était quand même avoir beaucoup de foi et peut-être naïf dans une certaine mesure.
Peut-on dire que le processus de Luanda, tout comme celui de Nairobi, c'est la continuité, ce processus est bloqué?
Il est bloqué tant qu'on ne pourra pas se dire c'est quoi les autres alternatives. Parce que, par exemple, quand on dit cessez-le-feu, mais on ne dit pas si le belligérant n'accepte pas le cessez-le-feu, on fait quoi, vous voyez. Le président Macron semblait parler des sanctions, mais est-ce qu'il va aller jusque-là? Ça, c'est encore un test. On va regarder si, par exemple, la France pourra impulser une démarche qui va dans le sens de faire des sanctions directes contre le Rwanda, parce que c'est ce qu'il a promis. Et donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il faudra se rendre compte que la première démarche n'a pas réussi et qu'il faut aller à la deuxième. Mais en tout cas, peut-être, si jamais on a une deuxième démarche qui peut faire bouger les lignes sur le terrain.
Alors, comme je l'ai dit, vous êtes chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo. Est-ce que lors de la rencontre entre le président angolais et la délégation du M23, la RDC était-elle associée?
Non, je ne peux pas l'affirmer, parce que tout ce qu'on sait, c'est que le président français, quand il est arrivé en Angola, la délégation du M23 était encore sur place. Mais on n'a pas appris, en tout cas, avec les informations que nous avons, nous ne pouvons pas affirmer qu'il y a eu des entretiens ou des pourparlers ou une présence sur une même table entre le gouvernement congolais et le M23. Et d'ailleurs, ce qui est dit officiellement, c'est que ça ne sera pas possible tant que il n'y a pas retrait et qu'il n'y a pas retour des populations.
C'était donc une annonce unilatérale du M23.
Non, il y a deux choses. Donc, le M23 est venu plus tôt. Est arrivé à Luanda pour qu'on lui fasse, pour qu'il entre en connaissance de ce qui a été décidé par le chef d'État. Et le Congo était à cette assise-là avant l'arrivée de M23, pour décider du cessez-le-feu. Et le M23, il a juste constaté, il a pris acte, on lui a informé, il a pris acte et il a annoncé aujourd'hui qu'il respectait le cessez-le-feu. Mais il ne s'agissait pas d'une rencontre où on a eu le gouvernement congolais et le M23. Non, en tout cas, selon les informations que nous avons, c'est seulement la médiation angolaise a justement informé l'homme 23 de la décision prise par le chef de l'État pour que cette fois-ci, il puisse être en connaissance de ces informations. Parce qu'au début, on va se rappeler que la première démarche, le M23 avait dit n'avoir pas participé et avait dit aussi n'avoir pas eu connaissance de ces informations. Mais cette fois-ci, il était clair que le M23 sait que le gouvernement des différents pays de la région ont demandé, ont décidé d'un cessez-le-feu. Et leur communiqué d'aujourd'hui s'inscrivait dans cette logique-là.
Merci, Maître Higgen. Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, vous êtes coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Et aux Caraïbes, le M23, soutenu par le Rwanda, s'est engagé à cesser les hostilités dans toute la région orientale de la RDC à partir de ce mardi 7 mars à 12 heures. Malheureusement, le respect, le M23 n'a pas respecté ce qu'il a écrit dans son communiqué. Quelle est votre lecture, professeur Bob Kabamba?
Merci beaucoup, madame. Donc, on avait dit ici il y a quelques semaines, justement, que les hostilités, de mon point de vue, ne vont pas s'arrêter et que le cessez-le-feu n'est qu'un élément supplémentaire par rapport à ce qui est en train de se passer. Les hostilités ne vont pas s'arrêter pour la bonne et simple raison que le M23 a des objectifs soutenus par le Rwanda, et j'insiste toujours, et l'Ouganda, un des objectifs clairement qui sont établis et qui sont connus depuis un bon bout de temps avec les différents cahiers des charges et qu'ils font valoir avec leurs revendications. Et par rapport à ces revendications, le gouvernement congolais dit non à ces différentes revendications. Et donc, il y a incompatibilité au niveau des objectifs et au niveau même des objectifs qui sont poursuivis. Et ainsi, les hostilités deviennent le seul mode de communication et le seul mode de discussion entre ces deux parties. Néanmoins, on peut souligner effectivement, comme on vient de l'annoncer, qu'il y a eu l'initiative de l'Angola émise sur base de d'une décision qui venait de l'Union africaine, pour que l'Angola puisse notifier le M23 de la cessation des hostilités. Et ce qui est à remarquer, c'est qu'on passe par l'Angola. L'Angola, c'est le processus de discussion entre, d'une part, le Rwanda et la RDC de manière étatique, et que le processus de Nairobi concerne ce qu'on appelle les groupes armés. Et si vous vous souvenez, le M23 était dans les groupes armés avant d'être exclu au moment des discussions de Nairobi. Et donc, passer par le Rwanda, l'Angola, par rapport au M23, de mon point de vue, isole la problématique du M23 par rapport à la problématique des groupes armés qui est globale. Et ce qui fait, qui rend encore très particulier maintenant la suite des événements et même la lecture que l'on peut en avoir, c'est que l'Angola, en acceptant de faire cette notification, l'Angola devient ce qu'on appelle un médiateur facilitateur. Et donc, il n'est pas négociateur, mais il est médiateur facilitateur, puisque la négociation, c'est entre, normalement, dans les revendications des uns et des autres, c'est le M23 et le gouvernement congolais, que le gouvernement congolais n'a pas. Et comme le processus va maintenant en Angola, quitte Nairobi pour l'Angola, spécifiquement par rapport au M23, cela donne un autre caractère au conflit et donne aussi un autre caractère, une autre lecture et une autre dynamique. Dans ce contexte-là, la M23 voit que sa stratégie de pouvoir être ferme et de continuer les hostilités commence à porter de ses fruits, du fait que progressivement, on se dirigerait, je dis vraiment conditionnel, on se dirigerait par des discussions, par l'intermédiaire donc de l'Angola. Et il n'est pas surprenant que dans cette logique, que la M23 poursuive les hostilités et continue à s'accaparer de territoires, et continue de s'accaparer des territoires, ce qui continue à consolider la position du M23 et qui est de dire, ben, je dois négocier avec le gouvernement congolais, et tant que le gouvernement congolais refuse, je vais continuer dans ma logique des hostilités. Et dans cette logique des hostilités, tôt ou tard, je sortirai vainqueur. Parce que d'autre part, quand on parle de la force régionale, on l'a déjà dit ici, la force régionale ne sera pas en mesure de pouvoir faire quoi que ce soit. Quand vous regardez le nombre, on parle de 30 militaires burundais et qui doivent être déployés à Sake. 30 militaires pour une ville comme Sake, vous devez vous avouer que c'est complètement insignifiant. Les 900 militaires kenyans qui ne sont pas encore 900, qui sont cantonnés donc dans le Nord Kivu, et aussi sont impuissants. Donc ils vont continuer à assister à cette logique de sourds, à ce dialogue de sourds, entre d'une part la force régionale qui a une autre mission, un autre cahier de charge, et les demandes de la RDC qui sont différentes de ce que la force régionale peut donner. Et donc la logique va être la logique simple, la lecture que nous avons et qui comment se confirme, les hostilités vont pouvoir continuer, et tant que les hostilités vont continuer, on va continuer à avoir les problèmes avec les populations civiles, on va continuer à avoir avec les déplacements de populations civiles, les massacres qui vont se faire, et en même temps, pour encore compliquer encore beaucoup plus les choses, le gouvernement congolais, si le gouvernement congolais parle de pouvoir intégrer, comme je l'ai entendu sur Radio Kapi, les groupes armés comme des réservistes de l'armée des FRDC, donc ça veut dire que le processus de Nairobi est mort. Et si le processus de Nairobi est mort, puisqu'il n'y a plus de groupes armés avec lesquels discuter, puisque ces groupes armés deviennent donc des alliés au sein des FRDC, donc il n'est pas question de pouvoir continuer à discuter à Nairobi avec des groupes armés maintenant qui deviennent donc des réservistes de l'armée des FRDC. Et donc ça complique encore beaucoup plus la situation, et ça rend encore beaucoup plus flou le système tel qu'on est en train de le vivre.
Je vais vous donner la parole, maître Juvenal. Mais professeur, dites-nous, lorsqu'on parle de cessez-le-feu, est-ce que ça se constate immédiatement ou il faut observer un jour, deux jours après pour voir comment ça va évoluer sur le terrain, comme l'a suggéré maître Rigel Miviri?
Généralement, quand on décrète un cessez-le-feu, c'est-à-dire à ce moment-là, c'est à l'heure qui est définie dans le communiqué, dans la décision. L'heure qui est définie, c'est à midi, ça veut dire que les armes doivent se taire où qu'elles sont, elles doivent se taire. Même s'ils sont au niveau dans une bataille, en train de bagarrer contre la FRDC ou bien les groupes de résistants Maïmaï, le M23 a l'obligation, puisqu'ils ont décidé à midi de pouvoir le cesser. Mais, sauf si, comme disent les mêmes communiqués, que s'ils sont attaqués, ils pourront résister. Mais le communiqué est clair, c'est qu'à midi, il devait être mis fin aux hostilités. À midi, il n'a pas été mis fin aux hostilités, et donc les hostilités vont se poursuivre.
Merci, professeur. Maître Juvenal, avant de vous donner la parole, on va prendre très rapidement cet auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, Sud Kivu.
Magdalene Jules, depuis la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. D'entrée de jeu, je pense que les M23 peuvent respecter les cessez-le-feu une fois qu'ils trouvent l'occasion d'avoir ce qu'ils revendiquent dans le cessez-le-feu. Au contraire, s'ils voient qu'il ne sera pas le premier bénéficiaire de ce cessez-le-feu, je pense qu'il ne va pas respecter ce cessez-le-feu. Le gouvernement congolais doit prendre une décision courageuse, soit de faire un dialogue, ou soit d'engager une guerre une fois pour toutes. D'autant que nous observons un ralentissement dans le domaine du développement de notre pays. Le développement dans les différents secteurs ou domaines serait hypothéqué par cette agression. C'est la justification du régime en place, ces mêmes attaques veulent ruiner les processus électoraux que les Congolais attendent avec impatience.
Maître Juvenal.
J'ai suivi M. Gilles, mais je suis pas d'accord avec lui. Est-ce que lui, il connaît les revendications du M23? Parce que la question fondamentale, c'est ça. Qui connaît les revendications du M23? Je suis sûr que même dans ces studios, dans cette émission, en dehors de ça, même les officiels du gouvernement congolais, personne ne connaît. C'est Kagame qui connaît mieux les revendications du
M23. Est-ce que ce n'est pas le retour des réfugiés?
C'est à boire et à manger dans cette histoire. Alors, tantôt ils disent que c'est l'intégration dans l'armée, tantôt ils disent que c'est des postes
entre
politiques.
Entre autres, postes politiques, intégration, oui, retour réfugié.
Tout ça, et puis parfois c'est la protection des minorités, vous voyez. Parfois c'est peut-être chercher les espaces pour cultiver et tout ça, parce que c'est saturé de l'autre côté du Rwanda, par exemple. C'est difficile de cerner les revendications de cette M23. Raison pour laquelle la M23, c'est comme l'arbre qui cache la forêt. Et là, je comprends la prudence du gouvernement. Comment vous allez discuter directement avec un mouvement dont on a difficile à cerner les revendications? Alors, la personne, l'acteur qui devrait porter les revendications du Rwanda, du M23, ça devait être le Rwanda. Et c'est la nécessité du processus de Luanda qui avait produit une feuille de route. Et comme l'a dit le professeur Bob Kabamba, c'est à Luanda que le Rwanda, parce que le meilleur porte-parole du M23, c'est Kagame. Et donc, le Rwanda devrait, c'est à ce niveau-là, entre chefs d'État, c'est là où, clairement, devait être dit, voilà, ce sont là les revendications du M23. Mais pas pousser le gouvernement à engager une discussion directe avec ces mouvements-là. Des groupes armés, il y en a beaucoup à l'Est. Et on les a conviés à Nairobi pour les volets internes du processus de Nairobi. Mais là, il faut qu'on fasse attention. Je suis d'accord avec prof Bob Kabamba. Il ne faut pas qu'on les intègre dans les FARDC. À ce niveau, c'est le DDR. Parce que ça reste quand même des groupes en marge de la loi. Je le disais, d'un point de vue sociologique, on peut bien comprendre pourquoi ils se mobilisent. Parce qu'ils voient bien que le pays est en danger. Mais sur le plan juridique, les sorts qu'on doit leur réserver, c'est le DDRC. On a un programme national du DDR et pas l'intégration dans l'armée. Ça, c'est clair. Ça, c'est Nairobi. Alors, par rapport à Luanda, c'est à Luanda où Kagame est attendu à Luanda pour dire ce que veut l'M23. Parce qu'il n'y a pas revendication du M23 et revendication du Rwanda. C'est quasiment les mêmes choses. Ils ont fait une identité de vie, une identité d'acteur. Donc c'est la même personne. Rwanda égale M23, M23 égale Rwanda. Vous voyez? C'est à ce niveau-là. Mais pas demander au gouvernement de négocier avec ces groupes. Ça serait humilier le gouvernement. Et je crois que le gouvernement ne se laissera pas humilier en engageant une discussion directe. D'ailleurs, les invités à Luanda, ça a été une entorse. On ne devrait même pas les inviter à Luanda. Parce qu'à Luanda, ils ont un interlocuteur. Ils ont un porte-parole, l'M23. Et leur porte-parole, c'est Kagame, hein, qui se réunit de temps en temps.
Mais les chefs d'État étaient d'accord, hein, que l'Angola puisse rapporter au M23 les décisions de la dernière réunion des chefs d'État.
On pouvait bien leur communiquer par un courriel et pas les inviter à Luanda. Parce que les inviter à Luanda, ça donnait l'impression comme quoi, et puis ça coïncidait avec le passage de Macron, ça donnait l'impression qu'il y avait un dialogue en catimini qui se déroulait. C'est ça l'impression que ça a donné, malheureusement.
Maître Higuel, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient encore une fois de Bukavu.
Jonas Boendo Théophile, province du Sud-Kivu, ville de Bukavu. Partant de cette procédure, c'est le fait déclaré par les M23. Elle est à saluer avant tout, car c'est un chemin vers la paix et la stabilité au niveau de l'Est. En effet, les parties prenantes doivent se convenir pour l'application effective de cette procédure s'agissant de cesser les faits et prendre d'autres mesures nécessaires pour éviter le dérapage du M23. C'est un mouvement qui veut réclamer sa part du pain, mais ça doit se dérouler dans les situations favorables à toutes les parties prenantes. Nous voulons la paix et la stabilité à l'est de la RDC.
Votre commentaire, Maître Higuen.
Premièrement, je pense qu'on a vraiment vendu l'effet plus qu'il ne vaut, en fait. Parce que pour moi, ce qui est essentiel, c'est le après. Voilà. Même s'il y aurait eu ce cessez-le-feu à 12 heures et après, qu'est-ce qui arrive? Que deviennent ces territoires-là où l'M23 a un pouvoir, a une occupation? Je pense que c'est après avoir eu ces questions-là que même un cessez-le-feu fait sens. Mais penser juste à un cessez-le-feu sur base de ce qu'on regarde sur le terrain, ce n'était pas suffisant, parce que dans tous les cas, un cessez-le-feu, c'est aujourd'hui, et pas demain. Il suffit que quelqu'un puisse justifier en disant que, bon, voilà, j'ai été encore attaqué, et ça recommence. D'ailleurs, on a vu que le communiqué du M23 laissait entrevoir cette possibilité. Et tous les communiqués du M23, d'ailleurs, quand ils parlaient du cessez-le-feu, il y avait toujours cette possibilité-là, et c'est cette brèche-là qui, jusqu'à aujourd'hui, fait que le combat est en train de continuer et que le M23 qui, premièrement, quand il y a eu le premier cessez-le-feu, n'était pas encore en Rutshuru, à retour au centre. Aujourd'hui, il est à Massissi, peut-être même avec une possibilité d'aller jusqu'à Calé et ensuite qui vous voyez. Donc, je pense qu'il faut prendre ces conflits d'une manière globale et ne pas juste vendre des petites choses comme cesser le feu pendant que la situation est plus complexe qu'un juste un petit cesser le feu.
Professeur Bob Kabamba, il y a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Kisangani.
Rémi Lokonga depuis Kisangani dans la province de la Choko. Je pense que le communiqué publié par le M23 déclarant l'effectivité du cessez-le-feu dès ce 7 mars est une façon de distraire l'opinion tant nationale qu'internationale à se montrer disponible de respecter les résolutions du Luanda, de Nairobi et d'Addis Abeba. En lisant ce communiqué, lorsqu'il s'est dit et réserver le droit de se défendre en cas d'attaque de la coalition gouvernementale composée de la FARDC, le FDLR et le Mai Mai, on a une façon d'accuser le gouvernement d'être en connivence avec ces groupes rebelles. Comme l'a toujours souligné son parrain le Rwanda pour semer la confusion dans les chefs de la communauté internationale et au niveau de la sous-région. Le gouvernement congolais doit savoir que la paix durable ne proviendra pas de ces organisations, soit de ces coalitions dont il semble mettre tout son espoir. Seule la réforme et la réorganisation de notre armée apporteront une solution durable et nous serons respectés sur la scène internationale.
Professeur Bob Kabamba.
Je suis vraiment un peu perplexe par rapport à l'analyse qui vient d'être faite. Effectivement, au fait, ce n'est pas véritablement une distraction. On va, quand on est dans ce qu'on appelle une dynamique de discussion avec quelqu'un, on pose des actes qui mettent l'autre partie en difficulté. Le M23, ce qu'il cherche avec ce communiqué, c'est uniquement essayer de s'attirer les faveurs de la région en disant que qu'ils se sont conformés aux directives de l'Union africaine et qu'en se conformant aux directives de l'Union africaine, si la partie congolaise ne respecte pas cette offre que le M23 fait, ils vont continuer les hostilités. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement congolais dit non. Et tant que le gouvernement congolais continuera à dire non, et donc, ça sera toujours les hostilités qui vont se poursuivre. Et donc là, le cessez-le-feu du M23 n'est que pour moi une stratégie de pouvoir montrer, simplement s'attirer les faveurs de la communauté internationale et aussi de la région par rapport à ce qui a été décidé à Addis Abeba. Et quand il y aura des hostilités, ils vont justifier les hostilités par rapport au paragraphe que a indiqué et donc l'auditeur. Et justifier en disant nous avons été attaqués, puisque nous avons été attaqués, nous nous sommes défendus et nous avons dû poursuivre les assaillants jusque Kalehe, jusque Bukavu, jusque Walikale, chez l'honorable Obedi, et jusque je ne sais pas encore où. Et c'est un peu cette logique-là dans laquelle ils sont, c'est-à-dire grosso modo, ils sont en train de jouer au jeu de la négociation, de discussion par des actes qui sont posés. Il est un fait que les solutions ne viendront, on l'a déjà dit, les solutions ne viendront jamais des forces régionales, puisque les solutions ne viendront pas non plus de la MONUSCO, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, puisque les forces régionales ne vont pas se battre et mourir à la place du Congolais. Le discours a été très clair, aussi
vous,
bien
professeur,
du côté des Kenyans que du côté.
Alors, professeur, vous êtes plutôt pour ce dialogue entre le gouvernement et ce mouvement?
Je ne suis pas pour le dialogue entre le M23 et le mouvement, c'est l'option militaire qui doit être privilégiée. Mais l'option militaire se pose à une question délicate qui est la faiblesse des forces armées. Et donc comme on a la faiblesse des forces armées, c'est de pouvoir, entre guillemets, reconstruire cette armée, comme m'a dit l'auditeur, pour que l'armée soit en mesure de pouvoir sécuriser et les populations, et le reste, et les biens, et les populations, et même les frontières. Et de cette façon-là, on peut répondre de manière très claire par rapport à toute une série de groupes armés.
Ça, c'est peut-être une solution à long terme, le temps de reconstruire, restructurer l'armée. Mais c'est quoi la solution immédiate, à court terme?
Dans la solution à court terme, de mon point de vue, c'est de figer les positions, puisqu'on ne pourra pas obtenir le retrait du M23. Figer les positions et entamer directement les réformes. Et en figeant les positions, oui, le M23 occupe une partie du Congo. Oui, les FADC ne sont pas en mesure de pouvoir les déloger. Nous réfermons, nous bloquons le front là où il est pour que des grandes villes ne tombent pas. Et parallèlement à ça, on continue à réformer cette armée, à continuer à faire véritablement une armée. Et c'est tout à fait faisable dans ce cas de figure-là.
Merci, professeur Bob Kabamba. On va considérer cela comme votre conclusion. Il est 19h56 à notre horloge dans ce studio. Maître Juvenal, très rapidement, vous allez aussi conclure. C'est quoi la solution à court terme?
Je peux décliner la solution en 4 points et je le fais rapidement.
Allez-y.
Premièrement, l'option militaire. En légitime défense, nous devons nous défendre, évidemment tout en réorganisant l'armée, mais nous devons nous défendre d'abord avec les moyens qu'on a, des moyens disponibles. On ne doit pas se lasser de taper dessus. Deuxième solution, Luanda doit se poursuivre parce que c'est à Luanda où le gouvernement discute directement avec le Rwanda, avec les autres États. Et à ce niveau-là, s'il y a des revendications d'IM23, eh bien, les porteurs de ces revendications, c'est le Rwanda. Ce n'est pas l'IM23 directement qui doit discuter avec les gouvernements. Et donc, je refuse toute négociation directe entre Kinshasa et IM23. Ça serait humilier l'État congolais. Troisième solution, c'est la pression diplomatique qui doit s'exercer sur le Rwanda et l'Ouganda, y compris des sanctions, hein, des grandes puissances, pour que ces pays se trouvent un peu isolés, affaiblis, et ça pourrait être une solution à la paix. Dernière solution, c'est le DDRC pour les groupes locaux, parce qu'il reste un autre problème des groupes armés locaux qui sont nombreux, et la solution pourrait, c'est le DDRC et pas l'intégration au sein de la FRDC. Je crois qu'avec une solution déclinée sous 4 points comme ça, j'estime qu'on peut avoir la paix à l'est du Congo.
Dans combien de temps? Vous pouvez estimer?
Alors, c'est difficile, c'est pas mathématique, mais s'il y a la volonté politique, je crois, ça pourrait bien se passer dans moins d'un trimestre, dans 2 mois, 1 mois et demi, on pourrait bien avoir des signes encourageant. Tout est question de volonté politique, tout est question du courage qu'on se donne, de pousser plus avec la diplomatie, de garder la fermeté par rapport à toute négociation avec l'IM23, d'organiser la légitime défense, parce qu'il faut l'organiser et ne pas se laisser envahir continuellement.
Maître Rigen Miviri, que pensez-vous des propositions de Maître Juvenal Mounoubou?
Je pense que, bien sûr, il est légitime que l'État congolais puisse se défendre et je pense que c'est une des choses qui jusque-là encore trouve beaucoup de difficultés, surtout sur le terrain. Alors que le gouvernement passe beaucoup de temps sur le front diplomatique, les efforts sur le terrain semblent être minimes. Pourtant, c'est même ces efforts sur le terrain qui déterminent des réussites sur le plan diplomatique. Donc, oui, on peut parler de la légitimité, dire sur le toit du monde que voilà, on est légitime dans la démarche en tant que nation qui se défend. Mais aussi, il faut avoir maintenant cette force légitime sur le terrain. Il faut qu'on la voie et c'est ce qui va déterminer que les citoyens seront protégés ou le territoire congolais sera protégé. Donc, le Congo ne devrait pas être naïf et en pensant que, voilà, juste en dénonçant que c'est suffisant. Non, mais le président Macron l'a dit clairement, soyez fort et je serai de votre côté. Donc, on sent bien que sur le plan international, on ne soutient pas le faible, on soutient le fort.
Merci, Maître Rigen Miviri. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci, chers invités, d'avoir accepté et répondu positivement, favorablement à notre invitation. Polydor Basunga était à la mise en onde et à la réalisation, présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.